Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Libre Propos, l'émission de Radio Grand Ciel qui vous permet d'entendre chaque semaine la parole de notre évêque sur des sujets divers et variés depuis, ma foi, 2 semaines. Nous parlons beaucoup de l'Ukraine, de cette guerre désormais engagée par la Russie en Ukraine et qui menace, sait-on jamais, de s'étendre à toute l'Europe. C'est de plus en plus menaçant. Comment vous vivez ces derniers jours, Monseigneur ?
D'abord, c'est une intention. Bonjour à vous, Christophe, et à tous les auditeurs. C'est une intention, bien sûr, de prière. Nous sommes là aussi vraiment en prière. Et je suis très frappé de voir des initiatives très nombreuses de prières qui ont lieu, des rendez-vous donnés sur le web. Rendez-vous œcuménique récemment avec des gens que je connais, entre Russes et orthodoxes et catholiques, qui prient ensemble, des rendez-vous dans nos diocèses proposés. Donc il y a une vraie attention à ce qui se passe en faveur de la paix. Maintenant, il y a aussi ici en Eure-et-Loire, on a eu une rencontre assez récemment en visio avec différents responsables du département autour de la Madame Souliman, notre préfet, qui... et donc on essaie, nous, de transmettre, on le fait par le site web du diocèse maintenant, des éléments pour pouvoir contribuer, soit en don de matériel, de vêtements ou d'argent, et peut-être à proposer des accueils pour loger des gens. Ça passera donc par les structures publiques, mais on essaie d'être vraiment partie prenante pour sensibiliser et être un peu les médiateurs de ces propositions. Sur les faits militaires, c'est de plus en plus grave, au sens qu'on voit des tas de gens qui sont victimes, on voit des villes détruites avec une puissance qui nous surprend, c'est très très violent. Ces gens qui essaient de partir aussi sans pouvoir attendre, sans pouvoir prendre un train, qui font des heures et des heures d'attente, parfois sans espoir. Donc c'est... Oui, c'est proche. Alors... Moi, j'ai bon espoir, et c'est mon espérance de foi, de me dire que les gens aussi peuvent être raisonnables et qu'on peut négocier. Le président de la République aussi communique avec le président Poutine, donc je crois que c'est toujours positif de parler, en tout cas. Il faut continuer à maintenir le dialogue, en vue, j'espère, d'un apaisement et d'un cessez-le-feu.
Ouais. À votre avis, Monseigneur, on sait ce qu'il en est de... Comment dire, du refus de la violence dans le christianisme. Néanmoins, faut-il armer les Ukrainiens, la résistance ukrainienne, selon vous, pour permettre à l'Ukraine de négocier dans les meilleures dispositions ?
L'Ukraine est un pays militairement faible devant la Russie. Donc, son projet politique, démocratique, est à soutenir. Il appartient à l'Europe, il est proche de nous. Si on veut que l'Ukraine ait quand même quelques moyens pour négocier, ne pas se faire écraser, je pense que c'était juste de les aider militairement, même si ce geste-là contribue à augmenter l'intensité des combats et donc des victimes. Si on ne fait rien, on laisse la part belle à celui qui a décidé de son propre chef de faire la guerre. En l'occurrence, le président Poutine, une guerre qui est profondément injuste, profondément injustifiable, même si derrière cette décision-là, il y a toute une histoire longue, une histoire de ressentiment. Hein, et c'est bien sûr souvent ces ressentiments qui alimentent des options politiques, voire belliqueuses, donc de faire la guerre. Maintenant, encore une fois, le but n'est pas d'armer d'un côté et de l'autre pour que les gens se tirent dessus. Le but est vraiment que les gens de bonne volonté arrivent à imposer un dialogue, une négociation et un cessez-le-feu.
Ouais. Merci, Monseigneur. Je rappelle à nos auditeurs et nos auditrices que... une émission sur l'Ukraine est écoutable sur notre site www.radiograndciel.fr. Nous avons reçu ici deux Ukrainiennes, dont une qui est russo-ukrainienne. Donc on imagine un peu la difficulté d'appréhender la situation pour elle et sa famille qui est encore dans le Donbass. Et puis nous referons une émission cette semaine sur très précisément sur l'aide à apporter aux Ukrainiens de diverses manières et par différents canaux. Deuxième sujet, 3 soirées de formation en doyenné au cours du mois de mars et du mois d'avril, dont une soirée que vous animerez d'ailleurs, je crois, Monseigneur, si je ne m'abuse.
Non pas une, mais 3 soirées,
Christophe. 3 soirées.
En fait, on a voulu, depuis 3 ans, proposer des formations qu'on dit décentralisées pour ne pas les faire que sur Chartres, donc par doyenné, avec à chaque fois un thème qu'on déroule en 3 rencontres. Donc il y a en principe 7 propositions faites, correspondant aux 7 doyennés, et chaque intervenant change de lieu chaque année pour proposer la même formation, mais en un lieu autre. Moi, je m'occupe de parler un peu de l'Église. D'où vient-elle? Comment le Christ a suscité, a convoqué l'Église? Quand est-ce qu'on peut dire qu'il y a une Église qui est en place? Comment est-ce qu'elle se développe? Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit dans le credo catholique, donc l'acte de foi catholique, que l'Église est une, sainte, catholique et apostolique, une, alors qu'elle est souvent divisée, sainte alors que les membres sont des pécheurs? Que veut dire apostolique? Ça vient de apôtres, hein, qui ont été les piliers de l'Église. Catholique, ça veut dire universel, mais donc c'est tout un développement de l'Église pour découvrir aussi comment nous-mêmes, baptisés, ceux qui le sont, en sont les pierres vivantes, donc les acteurs, et le synode qu'on vit actuellement pour réfléchir ensemble à l'écoute de l'Esprit-Saint sur son avenir, colle à ce thème, hein, de montrer que l'Église est faite de tous. Le Christ est la tête de l'Église, mais nous sommes les membres acteurs, actifs de cette Église, appelés chacun, avec des talents et des charismes, à prendre part à l'Église.
Oui. Je rappelle que pour ce qui vous concerne, ce sera donc les 10 et 24 mars et le 1er avril. Donc.
Alors, modification, pas le 1er, mais le 31,
le
jeudi. Il y a une erreur, c'est donc 3 jeudis.
3 jeudis.
10, 24 et 31.
Et 31 mars.
Mars.
Bien.
Ici même, à la Visitation.
À la Visitation, oui. Je voudrais revenir sur l'appel décisif des catéchumènes. C'était dimanche dernier. Les catéchumènes sont les premiers, si j'ose dire, à être en marche. Enfin, pour eux, c'est extrêmement important, ce carême, cette période, encore plus que pour nous, peut-être.
Un catéchumène, c'est un adulte, ou un grand jeune, on peut dire, qui a demandé le baptême à l'Église et qui est accueilli par l'entrée en catéchuménat dans l'Église pour faire ce parcours qui le conduira au baptême qui est célébré dans la tradition, lors de la vigile de Pâques, le samedi soir dans la nuit. Donc j'ai pu, et donc il y a une étape qui précède ce baptême, qui est célébré le premier dimanche du carême, où on appelle ça l'appel décisif. C'est-à-dire que eux ont écrit une lettre en demandant à être baptisés après un parcours qui a duré 1 ou 2 ans. Ils ont un accompagnateur qui a aussi confirmé le sérieux de la démarche que cette personne fait en demandant le baptême, et c'est moi qui accueille dans une grande célébration très belle en musique, individuellement, chacun, à qui je remets une écharpe violette qui est la couleur un peu de la pénitence, de la conversion que la personne va vivre durant le carême. Je donne un petit mot en général à chaque personne, en plus de l'homélie que j'ai pu faire, un petit mot d'encouragement, un petit mot qui parfois fait écho à la lettre qu'ils m'ont écrite. Surtout, je leur parle de confiance dans le Seigneur, de confiance en eux-mêmes, et puis de fidélité. Je crois que l'amour est toujours, comment dirais-je, confirmé par la fidélité de la relation. Ça peut être entre 2 êtres humains, entre 2 amis, c'est vrai aussi entre Dieu et nous.
Oui.
Et puis, voilà, à la fin, on fait une grande photo des catéchumènes autour de moi, c'était très beau, j'ai beaucoup apprécié.
Oui, on aura l'occasion d'en reparler du catéchuménat au moment, évidemment, de Pâques. Pour finir, j'aimerais qu'on revienne sur votre dernier message fraternel qui évoque la messe. Ben oui, c'est évidemment le cœur de la vie chrétienne, mais on n'y pense pas tant que ça parce qu'on va à la messe, voilà, point barre. Mais non, c'est vraiment le cœur de la vie chrétienne et vous le rappelez dans ce message fraternel.
Oui, la messe, qu'on peut aussi appeler l'Eucharistie. Eucharistie, c'est un mot qui, en grec, veut dire merci. Hein. Donc, c'est une célébration souvent dominicale, elle peut être en semaine aussi. Mais ce que j'ai voulu dire, peut-être dans ce dernier message, c'est à quel point le cœur de la messe, c'est le sacrifice de Jésus. Quand il vient s'offrir sur la croix, il y meurt pour que meure ce péché qui, malheureusement, nous blesse profondément. Il a pris sur lui tous nos péchés et par sa résurrection, il nous libère du péché, nous conduit à la vie éternelle. Et donc chaque messe prolonge ce que Jésus a fait il y a 2000 ans au Golgotha, sur le calvaire. Chaque messe, c'est le même sacrifice qui continue à s'opérer. C'est le Christ qui donne sa vie entre les mains de Dieu le Père, pour nous, avec nous. Et ça, c'est vrai, quelle que soit l'animation, quelle que soit les chants qu'on peut prendre, le décor de cette messe, son ampleur, chaque messe, c'est ça. Et donc, y participer, c'est s'associer, s'offrir en offrande sainte, on peut dire, au Christ, dans ce sacrifice qu'il opère, lui.
Et puis, il ne faut pas oublier, vous le dites, les origines bibliques, évidemment, de la Sainte Messe. C'est la Sainte Cène, bien évidemment.
Oui, c'est Jésus qui, le premier, avant sa passion, va célébrer la Pâque des Juifs. Et en fait, il fait un pas de plus. Il prend le pain azim, le pain non fermenté, qui est un héritage de la fuite du peuple égyptien, du peuple hébreu, pardonnez-moi, d'Égypte, hors d'Égypte, avec Moïse. Il va prendre ce pain en disant « Ceci est mon corps, livré pour vous. Voilà. » Et puis ensuite, il prendra la coupe, il y a toujours une coupe de bénédiction dans la Pâque juive, et il dit « Ceci est mon sang, versé pour vous. Faites ceci en mémoire de moi, en mémorial de moi. » Et ça, c'est la première scène et la première de toutes les messes qu'on célèbre dans le monde entier.
Oui. Nous ne prenons peut-être pas assez conscience, justement, de ce caractère extraordinaire de l'Eucharistie. Vous rappelez, j'aime beaucoup ce passage dans votre dernier message fraternel, vous évoquez la figure d'un prêtre polonais, Walter Joseph Stidzek, qui fut,
oui,
emprisonné au goulag.
Oui, c'est un prêtre. En fait, il était américain, mais d'origine polonaise. Et en fait, à l'époque de la guerre 40, il va passer à l'Est, comme on dit, pour aller rejoindre les soviétiques. Mais il va être arrêté très vite par le KGB, il va être à la Loubianka, qui est une prison abominable de Moscou, où les gens étaient quand même très, très torturés psychologiquement, et finalement il sera condamné à 15 ans de goulag. Et dans ce goulag qui est très violent, c'est un camp de travail très dur, on y meurt beaucoup de fatigue, d'épuisement, dans le froid de la Sibérie, lui parfois récupère un peu de vin, un peu de pain, de manière un peu clandestine. Et avec d'autres prêtres, ils célèbrent la messe, mais ils n'ont pas de calice, ils ont rien. Donc les paroles sont dites par cœur, voilà. Et comme calice, c'est sa main. C'est-à-dire que dans sa main, il met quelques gouttes de ce vin pour en garder, bien sûr, pour d'autres occasions, quelques miettes de pain. Et c'est ainsi qu'ils élèvent vers le Seigneur, vers Dieu le Père, leur supplication et leur célébration eucharistique. Donc on est très loin du décorum de Chartres, des chants de la maîtrise, de toute la participation des fidèles. Et ils le font en plus de manière clandestine parce qu'ils peuvent être dénoncés par des prisonniers de droit commun, qui sont des véritables bandits très violents, qui seraient prêts à gagner un peu d'argent ou de nourriture en dénonçant comme ça un prêtre qui célèbre sans autorisation. Et c'était pour lui une grande joie, il le dit, parce qu'il s'en sortira finalement ce prêtre vivant, au bout de 15 ans de goulag. Et il raconte que c'était vraiment tellement essentiel de célébrer ainsi avec des frères catholiques et orthodoxes.
Alors ça, c'est merveilleux, l'Eucharistie. C'est une célébration œcuménique.
Le pape François dit que le martyr, c'est le premier œcuménisme. C'est dans le martyr que tous les chrétiens catholiques, protestants, orthodoxes se retrouvent comme des frères. Quand on vous assassine parce que vous êtes chrétien, on ne le fait pas parce que vous êtes catholique ou orthodoxe, on le fait parce que vous êtes chrétien. Donc il y a une sorte d'unité de cœur dans le martyr, malheureusement.
Merci beaucoup, Monseigneur. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Libre Propos. En attendant, on peut tous prier, évidemment, pour nos frères ukrainiens qui souffrent terriblement. Vous pourrez réécouter cette émission, je vous le rappelle, sur www.radiorancel.fr. Et merci à Simon Martin en régie technique. À la semaine prochaine.